Bonsoir, bienvenue dans cette émission Tribune de la Presse. Trois thèmes sont au centre du débat, à savoir la Cour suprême de justice rejette la requête de l'UDPS pour dépôt tardif. Ensuite, élection en République démocratique du Congo, concertation en cours à l'étranger entre les candidats de l'opposition à la présidentielle de novembre 2011. Et enfin, adoption mercredi dernier par la Chambre haute du Parlement du rapport de la Commission sénatoriale sur la gestion de la Société nationale d'électricité. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Fidèle Moussangou, il est coordonnateur du journal Le Phare, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Fidèle Moussangou.
Bonsoir confrère.
Joël Kadé-Danga, il est éditeur du journal Impact News, un bi-hebdomadaire qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé-Danga.
Bonsoir Guimaté.
Martial Kiza Biamungu, il est correspondant de Digital Congo à Ituri en province orientale. Bonsoir Martial Kiza Biamungu.
Bonsoir Guimaté.
La requête de l'UDPS rejetée par la Cour suprême de justice, les candidats de l'opposition se concertent à l'étranger et le rapport de la commission sénatoriale sur la SNEL. On écoute cette revue de presse que nous propose Alain Hiron pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Commençons cette revue de presse par l'arrêt de la Cour suprême de justice qui a jugé irrécevable la requête de l'UDPS. Le potentiel titre contentieux UDPS CENI, la requête irrécevable. Dans l'hypothèse où l'UDPS n'aurait pas respecté le délai prescrit, c'est la forme. La question est celle de savoir si sur le plan de fond, cette requête ne serait pas fondée, souligne Le Quotidien. Dans le même registre, le palmarès indique, l'UDPS et alliés se disent déçus par la Cour suprême de justice. Le confrère note que la non-recevabilité de cette requête annoncée par la Cour suprême de justice a été très mal digérée par ceux qui gèrent au pluriel l'UDPS. Pour Le Phare qui regrette ce rejet, ce cas est tellement clair que la haute cour devait prendre son courage à deux mains pour appliquer la loi, même si les tenants du pouvoir en place devaient en pâtir. Concernant les tractations entre candidats de l'opposition à l'étranger, la prospérité, elle, s'intéresse au vis-à-vis de Bruxelles entre Kengo et Tshisekedi. La consoeur s'exclame qu'il y a eu les non-dits. Parmi elles, selon deux hauts cadres de la formation politique de Kengo Adondo, il était question pour Étienne Tshisekedi de déposer le programme de gouvernance de sa formation politique pour harmonisation auprès de l'actuel président du Sénat. Qui va se désister pour un autre candidat? C'est une question subsidiaire que pose le climat tempéré qui affirme que cette brûlante et épineuse question demeure pour l'heure non résolue. Chacun croit aux chances de succéder en décembre prochain à Joseph Kabila à la tête du pays s'il a le soutien de tous les autres. Terminons par le rapport de la commission sénatoriale sur la gestion de la SNEL. Le potentiel rapporte que le Sénat a adopté des recommandations pour améliorer la gestion de la SNEL. Parmi ces recommandations, il y a notamment la demande au gouvernement de choisir les gestionnaires en privilégiant les critères de compétences managériales et la levée rapide des options pour la restructuration de la SNEL. Mais ce rapport n'a pas été adopté faute de quorum, indique le confrère. C'est presque dans cette même logique que la percée cet hebdomadaire quinois indique que Janine Mabunda est une caisse noire très active. Pour preuve, écrit le journal, la politique de contrat de stabilisation et de redressement des entreprises publiques initiées par la ministre a échoué lourdement sur tous les fronts.
Merci Alain Hirung. Un petit commentaire par rapport à la revue des presses. Fidèle Moussangou, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité est aussi dominée par cette lettre ouverte adressée hier jeudi au chef de l'État par l'ONG Amnesty International qui encourage les chefs de l'État à mettre en œuvre des actions concrètes afin de lutter efficacement contre l'impunité pour les crimes internationaux commis en République démocratique du Congo.
Écoutez, combien de lettres ouvertes les agences, les organismes de défense des droits de l'homme ont déjà envoyé à Joseph Kabila Kabange en tant que président de la République? Il n'a jamais eu à y répondre, soit même par des actes concrets. Écoutez, je prends un exemple simple. Nous avons un criminel recherché par la Cour pénale internationale, le général Jean Bosco Ntaganda. On nous dit que c'est un élément de paix. Et si jamais on le livrait, qui va faire la guerre? Ça, c'est un. Trois, nous avons ici livré nos enfants. Nous avons livré Lubanga, Gatanga, Ngudjolo à la justice internationale et pourtant ils s'étaient ralliés à la paix. Ils ont signé un accord de paix. Nous les avons livrés comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons gagné? Nous n'avons pas gagné un rond de plus. Alors aujourd'hui, moi je dis, ça se passe ici, nous avons livré. Maintenant, on demande au président d'appliquer des sanctions, il ne les sanctionne pas. Donc c'est encore une autre de plus que Kabila peut-être va jeter à la poubelle.
Joël Kadé-Danga, vous êtes éditeur du journal Impact News, c'est un bi-hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. La presse a aussi fait état de la clôture hier jeudi à Kinshasa, de la conférence sur la participation politique des femmes qui ont demandé au gouvernement congolais d'assurer la mise en œuvre effective de l'article 14 de la Constitution sur la parité.
Mais c'est difficile la mise en pratique de cette disposition dans la mesure où c'est une affaire demandée en aval et pourtant c'était un travail qui devait être fait en amont, c'est-à-dire les femmes devaient s'organiser dans le dépôt des listes au sein des partis politiques, elles devaient être soit qui est sur les 11 candidats président de la République, je ne vois pas une seule femme.
Il y a une femme dont la
candidature avait été rejetée. Donc ça veut dire que il y a certaines actions entreprises par les femmes qui ne peuvent peut-être pas aboutir du fait que le bruit est fait au fond, au bout, au lieu que le travail soit fait pratiquement au début.
En amont.
Voilà, c'est un peu à ce niveau-là. Et on ne peut pas peut-être attendre des résultats escomptés.
Martial Kiza Biamungu, vous êtes correspondant de Digital Congo en Ituri et en Provence orientale. Quelle est l'actualité à la une dans cette partie du pays?
Oui, Guy Mathieu, pour l'Ituri, l'actualité qui a été vraiment à la une, c'était les lundis annonce par les forces armées de la République démocratique du Congo de l'assassinat du colonel Cobra Matata, un ancien officier des FARDC qui s'est retiré en 2010 dans son maquis de la chefferie de Walindu Bindi. Les FARDC ont aussitôt annoncé la mort de ces colonels qui dirigent aujourd'hui un groupe de miliciens FRPI actifs dans la partie sud de Walindu Bindi, c'est un territoire d'Iromou. Mais 48 heures après l'annonce de sa mort par les FARDC, il y a un des colonels membres de FRPI, ce groupe armé, qui avait démenti formellement la mort de son chef, qui est le Cobra Matata, cet ancien FARDC. Et après quelques heures, lui-même Cobra Matata a parlé à votre radio, précisément à la radio onusienne, et qu'il est encore vivant. Et voilà, ça a créé l'actualité dans tous les salons politiques à Ituri, et précisément à Bunia. Et malheureusement, le colonel de FARDC à Ituri, Falk Sikabwe, en ce jour en Kinshasa, a émis de même des doutes sur la mort de Cobra Matata. C'est ça l'actualité qui a dominé à Ituri, Guy Mathieu.
Merci. Notre premier thème de ce soir, la Cour suprême de justice rejette la requête de l'UDPS pour dépôt tardif. La Cour suprême de justice juge irrécevable la requête de l'UDPS contre la CENI pour raison de tardivité. D'après les greffes civils de cette Cour, l'UDPS a déposé sa plainte un jour après la date limite du dépôt des recours. Cet arrêt de la Cour a été rendu public mercredi dans la nuit. En effet, dans une plainte introduite dans cette juridiction, l'UDPS accusait la CENI d'avoir accepté et publié les listes des candidats à la députation nationale de certains partis politiques ayant aligné plus de candidats que de sièges requis en violation de la loi électorale. En réaction, l'UDPS affirme que le dossier a été maltraité à la Cour suprême de justice et en appelle à une mise en place urgente de la Cour constitutionnelle. Son avocat, Maître Richard Bondo, l'a dit à Mimi Ngumba Mulongo.
La loi électorale dit que la requête en contestation des listes électorales est déposée dans les 4 jours après la publication des listes provisoires par la CENI. Les listes ont été publiées le 22, dans les 4 jours qui suivent, mais parce que les 4 jours sont ce qu'on appelle en droit les délais préfixes. Les délais préfixes sont des délais francs, c'est-à-dire le premier jour et le dernier jour ne sont pas comptés. Les vrais 4 jours sont le 24, le 25, le 26 et le 27. Or, dans le dossier judiciaire devant la Cour suprême de justice, le greffe a réceptionné la requête de l'UDPS le 27. Voilà pourquoi je dis, il faut impérativement que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour convaincre le président de la République de l'opportunité impérative à mettre en place la Cour constitutionnelle en bonne et due forme.
Le PPRD, un des partis accusés, pense que la Cour n'a fait que dire les droits et ne peut aller au-delà de la loi. Le plus important, affirme l'avocat de ces partis, c'est le fait que la CENI ait reconnu les erreurs dans les listes provisoires. En attendant donc la correction, Maître Lunda appelle les acteurs politiques à préparer leur campagne électorale. Fidel Moussangou, la Cour suprême de justice vient de rejeter la requête de l'UDPS. Comment vous analysez cette décision de la Haute Cour?
Nous sommes en face d'un scandale judiciaire qui risque de faire date dans les annales de l'histoire du Congo.
Pourquoi vous qualifiez ça de scandale judiciaire?
Pourquoi? Parce que le délai de forclusion, Maître Kissa Bondo vient de le dire. L'UDPS est dans les délais. Ça, c'est un. Deuxième élément qu'il faut dire. Nous sommes en face d'une violation de la Constitution de la République. Parce que la loi électorale a obtenu sa conformité vis-à-vis de la Constitution à la même Cour suprême de justice, pour qu'elle soit opposable au tiers. Alors, maintenant, je déplace le problème sur le plan politique. Vous avez d'abord le PPRD, qui est censé, n'est-ce pas, ne pas ignorer la loi électorale. D'autant plus que son secrétaire général, c'est un professeur de droit constitutionnel, Évariste Beauchamp. Donc, en amont, le PPRD devait déposer la liste en conformité avec la loi électorale. Là où on dit qu'il y a deux sièges, il ne pouvait pas avoir quatre. Donc il y a la volonté manifeste, délibérée, de tricher dans le chef du PPRD.
Mais il faut rappeler qu'il n'y a pas que le PPRD dont les listes sont remises en cause.
Non, je parle du cas en question ici, voilà. Aux examens. Donc déjà, au niveau du PPRD, il y a intention manifeste de frauder. Et la tentative de fraude est là. Deuxième élément, au niveau de la CENI, il y a des juristes qui doivent, quand on réceptionne les listes, la CENI d'abord a comme mission de vérifier la conformité de ces listes par rapport à la loi électorale. Ne l'ayant pas fait, la CENI doit être accusée de quoi ? D'abstention coupable et de déni de justice. Il fallait d'abord à ce niveau toiletter pour dire non, monsieur, cette liste ne correspond pas. Allez corriger ou invalider. Parce que la personne qui dépose est censée connaître la loi. Troisième élément maintenant, vous avez ici le président de la République, qui est le garant, qui, sur les 80 millions de Congolais, il est la seule personne qui a prêté serment devant la Constitution d'être le garant de la nation et le symbole d'unité nationale. Le président ne peut pas... Et attention, et il a prêté serment sous la Constitution, parce qu'il venait en même temps de promulguer la Constitution. La Constitution qui nous régit, qui l'a promulguée, c'est Joseph Kabila Kabangé, en tant que président de la République. Et il a prêté serment. Donc il doit veiller au respect strict de cette Constitution. Et comment il peut souffrir, lui qui est le symbole de l'unité nationale, qu'un pan de la nation congolaise se permette de violer la Constitution? Il ne peut pas accepter.
Est-ce qu'il pouvait se substituer à la Cour suprême de justice?
Mais c'est le magistrat suprême qui me dit, j'arrête ça. Il informe le PGR, il l'instruit. Monsieur le PGR, arrêtez-moi cette affaire là-bas.
Et on ne parlerait pas d'interférence affaires judiciaires?
Là, il agit en tant que garant de la Constitution. Je vous dis, il a prêté serment au péril de sa vie. Donc ça fait une responsabilité politique que Kabila va... emporté pendant tout le temps. Vous voyez, ça c'est les trois éléments qui montrent que ici nous sommes en face d'un scandale judiciaire et politique. Aux conséquences graves, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant le PPRD ne corrige pas, mais le PPRD n'a plus à corriger, d'où on doit rejeter cette liste au niveau de la CENI. Si la CENI ne s'était pas rendu compte de cela, ce qui est d'abord incroyable, doit se rendre compte. Ah donc, un parti politique a déposé de manière délibérée ces listes qui sont entachées de fraude, devrait au départ sanctionner conformément à la loi. Ce qui n'a pas été fait au niveau de la CENI. Ce qui est grave, c'est un scandale judiciaire et politique.
Et Joël Kadé, la requête de la Cour suprême de justice est qualifiée de scandale judiciaire et politique. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Je prends le mot de Fidel pour faire trois constats. Le premier, c'est découvrir que les lois dans ce pays sont faites pour les faibles et pas pour les forts. Et parce que le PPRD est fort dans le cas échéant, on ne peut pas discuter de l'erreur commise et qui semble présager, n'est-ce pas, une fraude, Fidel l'a dit tantôt, et qui semble présager une tricherie bien préparée. Et à ce niveau, ici, il faut relever une chose, et dans les comportements des uns et des autres dans l'organisation de ces élections, vous allez constater une réalité telle que la majorité au pouvoir serait en train de préparer une tricherie, tandis que l'opposition prépare une contestation. Lorsque vous faites la lecture des deux camps, donc vous allez constater que personne ne prépare réellement les élections, mais vous verrez que la majorité dans son camp prépare une tricherie et tous les comportements et la CENI semblent donner aval, n'est-ce pas, à cette préparation de la tricherie au lieu de préparer les acteurs, n'est-ce pas, à une préparation saine et normale, n'est-ce pas, des élections. Le deuxième constat que je relève, j'emprunte le mot à Fidel, le scandale judiciaire, c'est que ça a renforcé la crise de confiance qui existe entre le pouvoir organisateur des élections, qui est la CENI, le pouvoir qui devait partager, le pouvoir judiciaire, et les acteurs des élections, notamment, particulièrement ceux de l'opposition. Et c'est cette histoire, je ne voudrais pas entrer dans les considérations judiciaires ou juridiques, va enfoncer davantage le fossé de cette crise de confiance qui existait avant, parce que la moindre chose que la Cour suprême de justice pouvait faire au-delà de tout, c'est traiter la question. Parce que pour aujourd'hui, je ne vois pas à quelle autre instance, au moment où il y aura encore des contestations judiciaires, à quelle autre instance l'opposition pourra, n'est-ce pas, s'adresser. Et en fin de compte, ce scandale judiciaire pourra être des conséquences très graves lors de l'organisation des prochaines élections. Ce qui fait que la demande de maître Richard Mbondo reste pratiquement encouragée dans la mesure où il faudrait qu'on mette en place maintenant une cour constitutionnelle qui pourrait en effet jouer le rôle de l'église au milieu du village. En dehors de ça, je crois qu'on tend vers une pente qui pourra être très désastreuse pour toute la République démocratique du Congo.
Martial Kiza Biamungu, il faut reconnaître que l'UDPS a déposé son recours au-delà du délai. Selon la Cour suprême de justice, au lieu du 26, qui était le dernier jour, l'UDPS est venu déposer son recours le 27. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à cette haute cour?
Oui, merci Guy Maté. Je pense que scandale politique, c'est un peu très fort. Du fait que la constitution est claire et même la loi électorale dans son article 25 est claire, c'est, on parle du délai de 4 jours suivant la publication du liste provisoire des candidats. Et la CENI, si on voit avec la date dont la CENI avait donné la liste provisoire des candidats,
c'est le 22.
Donc, quelque part, je trouve que c'est un problème d'interprétation des tests qui n'arrivent pas à faire mettre dans le même chemin les deux parties, entre l'UDPS et la Cour suprême. Il y a même un problème, Guy Maté. Allez voir, avant que même les problèmes arrivent à la Cour suprême de justice. Mais les candidatures ont été déposées dans des bureaux, dans des BRTC, les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Pourquoi pas dans tous ces bureaux-là éparpillés dans l'ensemble de la République? On n'a pas pu retrouver si dans chaque circonscription, on a besoin de 5 candidats pour la députation nationale, de 6 candidats pour la députation nationale. Pourquoi on a laissé à ce que soit les PPRD aligne 6 candidats alors que la loi électorale est claire? À chaque circonscription, il y a le nombre de candidats qui sont bien élaborés. Je trouve que les problèmes, au niveau de la CENI aussi, il y a un grand problème qui se trouve là. Ça crée directement les doutes. On est dans les processus électoraux. Bientôt, il y aura les élections, le 28 novembre, les élections présidentielles et législatives. Croyez-vous pas que c'est déjà un problème même de crédibilité de la CENI? La Commission électorale nationale n'est pas neutre. Parce que pourquoi on peut arriver, même si dans chaque BRTC, il y avait des juristes qui sont là, on peut arriver à voir que dans tel parti politique, dans telle circonscription, on a aligné tel nombre. Voilà, exactement. Et la loi est claire. On dit même qu'à cas de doute, avant que la candidature soit réceptionnée, s'il y a des éléments qui n'arrivent pas à faire convaincre les membres du bureau de BRTC, on rappelle encore les candidats pour que le candidat reconstitue son dossier dans un délai de 10 jours. La loi est claire.
Merci.
Mais comment on peut arriver à envoyer tous les dossiers au niveau de la CENI à leur bureau central de Kinshasa pour que ça crée des conflits électoraux? Et je peur que ça devient le début de la non-acceptation des résultats lors des élections.
Fidel Moussangou, apparemment il y a un problème d'interprétation qui se pose, interprétation des textes, parce que l'UDPS dit avoir déposé sa requête le 27, et se base sur les délais préfixes ou francs. C'est-à-dire, pour elle, le dernier jour c'était le 28 et non le 26, et comme le dit la Cour suprême de justice, qui, elle, se base sur les délais ordinaires. Alors, face à ces problèmes d'interprétation des textes, que faut-il faire, à votre avis?
Non, écoutez, vous savez très bien que le cours des tribunaux sont fermés les dimanches. Même la CENI ferme les dimanches, à moins qu'elle fasse exception, des heures supplémentaires. Même dans toutes les procédures judiciaires, on parle de jours francs. C'est-à-dire que s'il y a un congé, le jour ne compte pas. si un congé soit un congé du calendrier, congé officiel, ou bien le dimanche, ce dimanche ne compte pas. C'est ainsi d'ailleurs qu'on vous dit, par exemple, pour arrêter quelqu'un, sauf un criminel, c'est entre 6h du matin et 18h. Ça, c'est pour des, ce sont des éléments de protection des droits de l'homme, n'est-ce pas? Mais ici, le 27, là, quand il est déposé, ils ont compté le dimanche. Le dimanche ne compte pas.
D'autres non, le dimanche ne compte pas, même quand il s'agit du délai ordinaire.
Non, ne compte pas.
Pas du tout.
Pas du tout. La Cour suprême, c'est là où cette Cour suprême est en train de perdre sa crédibilité et puis sa neutralité. Ça, c'est grave. Parce que, vous savez, hein, les investisseurs étrangers ont peur de venir au Congo parce que la justice congolaise va toujours à l'encontre de ses propres lois. Et même du code pénal, du code civil, et qui n'est pas une invention congolaise. La preuve est là. Comment voulez-vous que les gens prennent au sérieux cette Cour suprême qui confond la notion du délai de dépôt? Le 25, on ne compte pas. L'IDP se dépose le 27, c'est dans le délai. Mais demandez à tous les constitutionnalistes, même à tous les juristes, ils le savent. Alors, je suis étonné. Et puis, autre chose, c'est qui est très grave au niveau de la Cour suprême de justice. Parce que, vous savez, c'est bien beau de prendre des décisions pour plaire à tel ou tel camp. Mais un peu plus tard, ces magistrats qui ont rendu ça, seront un jour rappelés à l'ordre pour dire, monsieur, vous, s'il y a des conséquences graves, des comptes. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les gens ont violé même les règles élémentaires. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Même le fameux président de la Cour de la Cour constitutionnelle. Mais l'homme se retrouve maintenant ridicule. On l'a fait partir. Mais il est ridicule, il n'est plus en sécurité judiciaire. Parce qu'à tout moment, on peut le rappeler, faire ce qu'on appelle la prise à partie et le condamner.
Et Joël Kadé-Danga, certains experts pensent que même si la Cour suprême a rejeté la requête de l'UDPS, elle devait en principe se prononcer sur les fonds du dossier. Parce que la loi était violée. Et ça, c'est une évidence.
Oui, c'est à ce niveau-là que l'on dit la justice à deux vitesses qui est très dangereuse pour notre pays. Et c'est ce que Fidèle est en train de dire. Là, il faudrait qu'on en tienne tellement compte. Parce qu'aujourd'hui, avoir l'erreur commise d'une manière sciemment par le PPRD, et peut-être il faut ouvrir une parenthèse.
Il n'y a pas que le PPRD.
Il n'y a pas que
le PPRD. Il y a même l'UDPS qui reconnaît avoir commis la même erreur à Moba au Katanga.
Mais c'est une erreur commise dans le souci parce qu'on connaît le système électoral de notre pays, parce qu'on sait que lorsque vous avez beaucoup de candidats, il y a moyen de gagner. C'est une fraude sciemment montée. Dans le but de gagner à tout prix à l'élection. Mais au moins la Cour suprême de justice, parce que c'est elle qui est l'instance suprême de justice dans notre pays, devait s'intéresser quand même au fond pour élaguer toutes les irrégularités constatées dans le dépôt des listes des partis politiques. Mais aussi, il faudrait qu'au niveau de la Commission nationale électorale indépendante, qu'à ce niveau aussi que les choses soient bien claires. Parce que si on favorise cette fraude sciemment montée, ça risque d'être conséquemment mal interprété. C'est à ce niveau
que ça pourrait créer un précédent fâcheux.
Un précédent très fâcheux. Et la Cour suprême pouvait se racheter ou devrait se racheter en s'intéressant au fond du dossier parce qu'il y a violation de la Constitution, il y a violation des lois auxquelles elle-même a donné quitus.
Martial Kiza Biamungu, au-delà de ces débats sur le fond, sur la forme, quel aura été, à votre avis, le mérite de la requête de l'UDPS?
Moi, je trouve que la requête de l'UDPS a été vraiment rejetée et bafouée par la Cour suprême de justice. Et l'IDPS, comme vous l'avez dit, avait même reconnu d'avoir aligné plus de candidats à la circonscription de Moba. Il y a le problème des fonds. Maintenant, malgré qu'on a rejeté la requête de l'IDPS, mais qu'est-ce qui va suivre maintenant? Est-ce qu'on va essayer, on va laisser à ce que les gens partent dans le processus électoral avec des listes qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas acceptées par les différentes parties? C'est déjà un problème. Parce que dans les fonds, il y a des circonscriptions où il y a, au lieu d'aligner 6, on a aligné 7, 8. Alors, comme la Cour suprême de justice a rejeté cette requête, la CENI, elle va croiser les bras. elle va croiser les bras, et quand elle croise les bras, maintenant ça devient, maintenant l'imbroglio dans les positions électorales, parce que la CENI va se déprocher encore de quoi, quand la Cour suprême a déjà rejeté la requête de l'IDPS.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir, élection en République démocratique du Congo, concertation en cours à l'étranger entre les candidats de l'opposition à la présidentielle de novembre 2011. Étienne Tshisekedi, leader de l'IDPS, et Léon Kengo Adondo, président de l'UFC, et tous des candidats à la présidentielle de novembre prochain, se sont rencontrés jeudi 29 septembre dernier à Bruxelles, en Belgique. Au cours de cette rencontre, Étienne Tshisekedi a remis les projets du programme de gouvernement de l'IDPS à Léon Kengo Owadondo. Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons le quotidien L'Observateur qui dit présidentiel 2011, grande tractation au sein de l'opposition. Nous avons le quotidien Ouro qui dit les enjeux de la présidentielle du 28 novembre, Kengo et Tshisekedi pour le meilleur ou pour le pire. C'est une question que ce quotidien pose. Nous avons le quotidien Forum des As qui dit, après la rencontre entre les leaders de l'IDPS et de l'IFC à Bruxelles, tête à tête Tshisekedi Kamere au Canada. Et enfin, nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit, candidature unique de l'opposition, Tshisekedi Kamere, Jean-Pierre Bemba relance l'espoir. Joël Kadé-Danga rencontre Tshisekedi Kengo à Bruxelles. Comment vous avez accueilli cette nouvelle?
Bon, je crois que je me pose toujours des questions, à quoi servent toutes ces concertations pour une candidature unique, dans la mesure où un parti politique, lorsqu'il dépose sa candidature, ou lorsque, avant d'être agréé, ce parti politique a un projet de société qu'il compte réaliser. C'est dans les conditions où il y a un scrutin à deux tours, où au premier tour, on s'est rendu compte que nous n'avons pas pu obtenir la majorité absolue pour permettre à l'un des candidats de passer, qu'il y a ces concertations ici. Et dans un pays où la culture des sondage n'est pas bien maîtrisé et que l'on n'a pas pu savoir qui va avoir quoi, je ne vois pas en quoi ces concertations pourront peut-être contribuer au développement, à l'avancement du pays. Ça va peut-être nous remettre dans ce que nous avons constaté durant le gouvernement Gizenga 1 et 2, gouvernement Mouzito 1 et 2, où les accords préélectoraux ont pris tout le pays en otage pour satisfaire aux appétits gloutons et égoïstes de certains individus, parce que il fallait, les accords préélectoraux ont défini déjà que tel va occuper la primature, tel la vice-primature, tel autre, tel autant de ministères, autant de portefeuilles. Vous avez vu que le pays a été pris en otage.
Et comment réalisez-vous à l'opinion selon laquelle il faut nécessairement que l'opposition ait un candidat commun pour espérer avoir la victoire le 28 novembre?
Pour battre Joseph Kabila, il faut nécessairement être ensemble. Bien sûr qu'on peut être ensemble, mais dans ce pays, nous savons que le consensus a toujours été trouvé dans des difficultés graves, et lorsqu'on va se mettre ensemble, vous savez ce que ça peut créer par la suite, et vous connaissez. Qu'il s'agisse de Kengo, Tshisekedi, Kamere, tous sont aux antipodes et je ne les vois pas un jour ou l'autre se mettre ensemble pour l'intérêt peut-être supérieur de la nation. Ça, j'en doute, parce que l'expérience de la transition mobutienne nous donne un grand éclairage par rapport à ça. Moi, tout ce que je crains, Guy Maté, à ce niveau, c'est que l'on puisse encore remettre, que les accords préélectoraux puissent encore remettre le pays en otage, comme ce que nous avons vécu pendant le gouvernement Gizenga, où les ministres n'obéissaient pas au Premier ministre parce qu'ils savaient que tout a été colmaté, tout a été déjà hermétiquement fermé, et qu'on ne pouvait plus résoudre quoi que ce soit. Et vous avez vu que le pays a été pris en otage. Vous avez lu un journal, je crois, La Percée, qui parle de la ministre du portefeuille Mabunda, et qui ne sait pas, selon certains confrères, qui ne sait pas peut-être obéir aux ordres qui donnerait le Premier ministre, parce qu'ils savent que nous sommes dans un gouvernement de coalition dont les accords avaient été déjà préétablis, et par conséquent, on ne peut obéir à personne. Moi, pour le compte de notre rédaction, je ne pense pas que ça puisse être un élément qui va avancer la RDC. Ça va par contre remettre encore le pays en otage par une clique d'individus pendant encore 5 ans prochains.
Merci. Fidel Moussangou, il faut quand même reconnaître que la rencontre entre les deux personnalités, Tshisekedi Kengo, a quelque peu surpris, parce que s'il faut se rappeler les propos d'Étienne Tshisekedi le jour où il déposait sa candidature, il avait dit qu'il mettait fin aux concertations.
En politique, les négociations se font même la nuit, parce qu'on dit la nuit tous les chars sont gris. Le jour on peut dire on ne rencontre pas tel, mais la nuit se rencontre même au bord du fleuve, vous voyez, dans une grotte. Mais moi, je peux faire une réflexion comme celle-ci. Primo, quand nous étions jeunes, moi j'avais, à l'époque j'étais encore gamin, quand on allait jouer au match de football contre un quartier, on ne pouvait pas manquer d'aligner notre meilleur, quels que soient les liens qui nous unissent. C'est comme aujourd'hui, Barcelone compte sur Lionel Messi. Alors, la question que je pose, entre, disons, les trois qui sortent de l'eau, ou qui font beaucoup de bruit, c'est Kamere, Kengo et Tshisekedi. Il faut que l'opinion demande de trois-là, quel est le Lionel Messi pour gagner, pour marquer les buts ou faire marquer les buts. C'est la première question, et un minimum d'honnêteté intellectuelle. Si vraiment vous voulez l'alternance, si vous voulez faire changer les choses, si vous voulez prouver à la face du monde que le régime Kabila a échoué, il faut nous dire, il faut se dire, quel est le Lionel Messi? Et faire possible pour dire, monsieur, le Messi, c'est tel qui peut marquer des buts et fait marquer des buts.
À cet effet, on procéderait comment?
J'ai réfléchi, une réflexion, je me dis, c'est comme ça que moi j'étais quand j'étais petit. Deuxième élément, il y a certains indices qui montrent que celui-ci a investi dans la durée. Celui-là est encore jeune. Celui-ci est encore... Je vais te parler plus franchement. Vous avez Tshisekedi qui a commencé l'opposition, il avait 48 ans. Ça fait 30 ans qu'il se bat. 48 ans. Et vous avez Kengo qui a toujours été avec Mobutu. D'abord, Kengo a trouvé Tshisekedi là-bas. Et puis il est resté, jusque tout récemment. Et pendant cette période, la première législature, Kengo était un opposant silencieux. La preuve, il s'est abstenu lors du débat sur la révision constitutionnelle. Et pourtant, tous les opposants avaient voté contre. C'est un indice. Vous avez un Vital Kamerhe. Qui, ça fait même pas une année qu'il est dans l'opposition. Vous comprenez que Vital Kamerhe, quand il arrive, il dit, je suis candidat président, je dis, ça énerve les gens. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais, à supposer que Valentin Moubake, Rémi Massamba, démissionnent ou sont chassés de l'UDPS, et ils vont chez Kabila pour dire, nous sommes chassés de l'UDPS, nous venons chez vous, et nous voulons avoir des accords avec vous. Est-ce que c'est faisable? Vous voyez, c'est ça donc les réflexions. Quelqu'un qui n'a pas fait encore une année, il vient, il dit non, je dois signer des accords. Je suis candidat président de la République contre l'opposition. Est-ce que ce n'est pas la limite de l'injure, ça?
Est-ce que, bon, évidemment, ça c'est un problème des perceptions. Est-ce que l'opposition, c'est par rapport à la durée ou par rapport au fait qu'on n'est plus d'accord avec les principes qui régissent un camp politique? On n'est plus d'accord, on s'oppose à ça. À partir de ce moment-là, on devient opposant ou c'est par rapport à la durée?
Non, attention, je vais vous donner un exemple. Remarquez, il y avait deux groupes de l'opposition. Comme à l'époque, à Sorali, il y avait des petits sous-trois par bloc. Il y avait le groupe de Fatima, le groupe de Sultani. Qui a échoué? C'est Sultani qui a échoué. Parce que Kengo et Vital ne se sont pas d'accord sur une candidature unique pour aller négocier avec les autres. Les Fatima, ils étaient... C'est comme la majorité présidentielle. Kabila n'a signé aucun contrat avec qui que ce soit. On a dit majorité présidentielle. Vous venez ou vous ne venez pas? Vous ne venez pas, vous venez avec notre. Là, c'était clair. Et notre candidat, c'est Kabila. Tout le monde, les Ndundo, les Kamitatu, tout le monde a dit, nous sommes là, candidat. Kabila n'a pas signé aucun contrat. Alors, ce qui est normal à la majorité présidentielle doit l'être aussi à l'opposition. Maintenant, vous venez d'arriver il n'y a même pas une année. C'est un problème aussi d'éthique morale. Vous trouvez des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, en train de se battre. Et vous venez du pouvoir, dites non. Moi, je suis votre chef. Alors, il faut signer un contrat. Parce qu'écoutez, si Tshisekedi, parce que le problème, c'est Kengo et Kamere veulent signer des accords particuliers avec Tshisekedi. S'il accepte de signer avec Kengo et Kamere, Pai Pai va demander aussi de signer. Fayoul va demander de signer. L'opposition va éclater. C'est ça la crainte.
Martial Kiza Biamungu, après la rencontre Tshisekedi Bemba, Tshisekedi Kengo, Tshisekedi Kamere, peut-on espérer que l'opposition va enfin se mettre d'accord sur une candidature unique?
Oui, Guy Maté, je raisonnais de cette façon. C'est plusieurs rencontres que l'opposition est en train d'organiser. D'abord, ça a commencé au pays, et puis ça devient des rencontres de l'extérieur du pays. Moi, je n'arrive pas à comprendre réellement ce que les leaders d'opposition aujourd'hui sont en train de raisonner pour ce qu'ils appellent la candidature unique. Parce que à un certain moment, on a vu Tshisekedi avec des rencontres avec Vital Kamerhe, on a vu Kamerhe avec Jean-Pierre Bemba au niveau de la Aïda Sasselil, on a vu Kamerhe avec Thomas Lubanga qui a sa base à Ituri. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, Thomas, je prends l'exemple de ceux qui se trouvent aujourd'hui incarcérés à La Haye, qui sont des leaders de l'opposition avec des bases en RDC. Ils vont écouter qui? Il y a Kamere qui a suivi Bemba au niveau de la prison. Il y a Kamere qui a suivi Thomas Lubanga. Et Ken Tshisekedi de la même chose. Je trouve que ces racontes vont nous amener toujours à raisonner de cette façon, plusieurs racontes pour aboutir à une opposition qui est dispersée au 28 novembre. Et puis, aujourd'hui, le président Kabila, pour les battre, comme l'avait dit Joël, c'est avoir la candidature unique. Mais avec des racontes pareilles pour se diviser, c'est partager seulement des postes ministériels, des postes de dans des entreprises publiques. Ce sont des racontes qui, moi, je ne donne pas beaucoup de chance. Merci. Parce que si ça devait être vraiment des racontes pour amener l'opposition à la candidature unique, ça devait se faire depuis Kinshasa où c'est les différents leaders qui se rencontrent dans des racontes différentes. Où ils ont pris des options. Merci. Pour l'alternative de la RDC. Voilà un peu qui m'a dit, donc je ne donne pas beaucoup de chance à faire la contre, parce que ça devait se faire bien avant, mais à l'état comme ça, à quelques un mois et demi des élections, vraiment je ne suis pas sûr de faire la contre.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, adoption mercredi dernier par la Chambre haute du Parlement du rapport de la commission sénatoriale sur la gestion de la Société nationale d'électricité. La Société nationale d'électricité est très mal gérée et cette responsabilité incombe non seulement aux gestionnaires de cette entreprise, mais aussi à l'État congolais. C'est ce qu'a affirmé le sénateur Mokonda Bonza, président de la commission chargée d'enquêter sur la SNEL. Il l'a dit mercredi dernier à la plénière de la Chambre haute du Parlement au cours du débat général sur les rapports de la mission effectuée par son équipe, lequel rapport a été adopté à l'unanimité par les sénateurs. Au micro de Mimi Ngumba Mulongo, le sénateur Mokonda Bonza revient sur l'essentiel de ces rapports.
Vous avez suivi comment l'exécutif oblige parfois la SNEL à poser un certain nombre d'actes de gestion alors que l'exécutif n'aurait pas dû le faire. La responsabilité de l'État aussi, parce que l'État consomme l'énergie et ne paye pas les factures. Ceux qui sont nommés à la SNEL, ils se comportent beaucoup plus comme des fonctionnaires. Je crois qu'ils n'ont pas intériorisé le fait qu'ils sont à la tête d'une entreprise et d'une entreprise commerciale et industrielle. Et la culture dans notre pays est telle que on vous oblige à faire quelque chose. Même si votre conscience vous l'empêche, vous ne démissionnez pas. Nous ne pouvions pas tout dire dans le rapport pour des raisons de décence, des choses que les membres du comité de gestion nous ont dit, que les directeurs nous ont dit. Nous ne pouvions pas mettre ça dans le rapport. Sinon, on accuserait publiquement un certain nombre de personnalités politiques. Mais ce qui se passe à la SNEL, à mon sens, c'est un signe que le pays va mal.
Notez que cette commission d'enquête a été chargée de formuler des recommandations à soumettre au gouvernement central. Martial Kiza Biamungu, vous êtes correspondant digital Congo à Ituri, en province orientale. La SNEL est mal gérée selon cette commission sénatoriale.
Vraiment, je donne beaucoup d'importance à cette commission sénatoriale parce que vraiment c'est grave, Guimaté. La SNEL, peut-être qu'à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, c'est grave. C'est trop mal géré. Comme je reprends ce que le sénateur Mokonda Bonza avait soulevé, il faut que parmi ces recommandations, que la SNEL soit capable d'élaborer un programme de recrutement. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui n'a rien de notion d'électricité, un créé qui a terminé d'astronomie, qui retrouve directeur technique de la SNEL. Il a même soulevé, mon compagnon Bonza, sénateur, a même soulevé qu'on puisse avoir même des personnels qualifiés, capables même de donner des initiatives pour que la SNEL aujourd'hui, qui est une entreprise commerciale, industrielle, puisse aller de l'avant. Mais ce qu'on retrouve, d'ailleurs je vous informe, nous, au niveau de l'Ituri, à Bunia précisément, on a beaucoup remercié le gouvernement d'avoir arraché l'autonomie de l'électricité au niveau de Bunia pour donner sa société de Kilomoto.
Joël Kadé Danga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un bi-hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Martial Kiza Biamungu a commencé à le dire. L'on peut affirmer que les sénateurs n'ont fait que confirmer ce qui s'est dit dans l'opinion.
Non, la situation de la SNEL, c'est un miroir pour voir la gestion de toutes les entreprises dites publiques qui ont été transformées soit en établissement public, soit en entreprise commerciale. Donc c'est un miroir pour confirmé la conclusion de Mukunza Bonda lorsqu'il dit que le pays est très mal géré, très mal géré. Et pourquoi le pays est très mal géré, le pays va mal, comme il l'a dit? C'est parce qu'il y a la culture d'impunité qui a été érigée en système de gestion. Quelqu'un peut commettre les erreurs, mais parce qu'il bénéficie de la protection de telle ou telle autre personnalité dans les hautes sphères au sommet de l'État, il peut passer tout le temps qu'il voudra à la tête de cette entreprise-là et on lui fera rien. C'est le miroir de la gestion de toutes les autres entreprises où lorsque la personne qui devait d'abord sanctionner, par exemple d'abord pour en ce qui concerne la SNEL, la tutelle par exemple du ministère de l'énergie ou n'importe quel ministère finance et consorts, lorsque c'est lui-même au niveau de la tutelle qui vous donne les ordres de commettre les erreurs, votre conscience ne vous pousse pas à démissionner dans un pays où on ne voit pas trop de démissions, c'est très grave. Et lorsqu'il faut monter au niveau de la primature et ainsi de suite, c'est vous dire que on ne peut pas espérer quelque chose de la gestion de nos entreprises publiques parce qu'il n'y a pas la culture de la sanction. S'il y avait la culture de la sanction, il y a moyen d'encourager ceux qui gèrent bien. Or, dans notre pays, on sait que lorsque vous gérez bien dans l'éthique normale, vous aurez toujours des problèmes avec votre tutelle qui finira par soit vous suspendre, soit vous sortir de là, vous faire sauter de là. Et c'est ça le problème. Et ça se passe dans toutes les entreprises publiques guillemotées. C'est de cette façon que les choses sont gérées. La SNEL n'est que le miroir.
Fidèle Moussangou, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Des recommandations ont été formulées par cette commission à l'endroit du gouvernement. Et comment vous entrevoyez la suite? Est-ce que ces recommandations seront-elles prises en compte ou elles vont rester lettres mortes comme d'habitude?
Écoutez, on ne doit pas réinventer la roue ou la boussole au Congo. La conférence nationale souveraine avait pris une résolution salutaire. Il faut privatiser le secteur de l'eau et les secteurs d'électricité, les secteurs des assurances. Pourquoi? Parce que les privés vont gérer avec les règles de bonne gestion et n'ont pas de comptes à rendre à un ministre de mauvaise foi. Rappelez-vous deux scandales qu'on a connus ici. Il y a un ministre qui a signé un accord avec un groupe appelé Mag Energy. C'était une escroquerie terrible. Que une femme, Madame Toko l'avait dénoncé devant le Parlement. Et là, il gagne cause. Le Congo a été sauvé. Sinon, on allait avoir la corde au cou avec la Maganie pendant 100 ans. Ça, c'est deux. Vous connaissez le scandale de Brazzaville. 32 millions de dollars qu'on est allé chercher là-bas et on ne sait pas où c'est parti. C'est pour vous dire, il faut enlever la mainmise du pouvoir politique sur les entreprises de certains sensibles comme l'électricité. Deux, moi j'ai grandi, je suis né avant l'indépendance. Il y avait dans chaque province une société d'électricité et la régie des eaux à part. Il faut privatiser, pourquoi? C'est pour les rendre concurrentielles. C'est comme la SONAS. Ouais. Alors, ça c'est un. Deuxième élément, remarquez qu'il y a ça 10 millions d'habitants. La SNEL même produit le courant, transporte le courant, distribue. C'est trop. Il faut que ça éclate. Il faut que Inga soit une société à part. Il faut qu'il y ait une société pour transporter le courant. Et il faut, dans une ville comme Kinshasa, parce qu'il y a 24 communes, à la limite, 4 compagnies d'électricité privées. Et là, on va suivre les câbles, on va suivre les transports. Et la société de transport va toujours construire des lignes de transport. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? C'est parce que la ligne de haute tension entre Inga ici date de 1972. Et les vétustes, donc c'est ça là. Il faut donc une autre société, même entre ici. D'autre part, pour le courant, nous avons des pays qui ont fait des mini-barrages. Il n'est pas nécessairement de prendre l'histoire d'Inga là. Et même si on privatise, Inga doit être un patrimoine universel mondial.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Manzangou était à la technique, Alain Hirung à la réalisation sous la supervision des Pélé Kipela Mondo. Devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.